Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 4, dont le thème principal, c'est quel conseil que la Bible nous donne pour notre vie. Étude numéro 4. Premièrement, quand les mauvaises nouvelles s'amoncellent, et il y en a souvent, contre le sentiment de l'âme qui croit qu'elle est tentée au-delà de ses forces, eh bien la Bible répond, aucune tentation ne vous est survenue qui passe la mesure humaine. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 13, plutôt chapitre 10, verset 13. Je répète donc pour pas qu'on se trompe. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il est vrai que nous avons parfois le sentiment que trop de malheurs s'abattent sur nous, que nous ne pouvons plus porter ce que Dieu nous impose. Nous avons à peine le temps de pleurer la perte d'un membre de notre famille, qu'un autre disparaît à son tour. Ou bien ce sont des crises personnelles qui se doublent de conflits au travail. Tout s'écroule en même temps. Nous n'avons plus d'appui. Les gens qui traversent ces périodes où toutes les souffrances s'accumulent me demandent souvent s'il est vrai que Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos forces, s'il est vrai qu'avec la souffrance, il nous offre aussi la force de la surmonter. Et je peux vous dire que c'est vrai. Ici, je vous renvoie à la première épître aux Corinthiens, avec laquelle l'apôtre Paul veut consolider notre confiance en ce que Dieu ne nous demande jamais plus que ce que nous pouvons endurer, même si nous avons souvent l'impression contraire. Les paroles de l'apôtre Paul nous donnent l'espoir que nous recevrons de Dieu vraiment la force nouvelle de supporter ce qui nous arrive. Deuxièmement, lorsque un mal au dos et une bronchite font de notre journée une vallée de larmes, eh bien, voyez-vous, contre les pensées qui redoutent que les démons ébranlent notre âme et que notre corps tombe dans une maladie incurable, eh bien, la sainte parole de Dieu nous dit « Et qui vous fera du mal ?» Si vous vous montrez zélé pour le bien, que si pourtant vous deviez souffrir à cause de la justice, heureux êtes-vous. N'ayez d'eux donc aucune crainte et ne vous laissez pas troubler. Traitez sainement, c'est-à-dire dignement, dans vos cœurs le Seigneur le Christ. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 13. C'est parfois la journée entière qui s'annonce mal. Mon nez coule et est irrité par des éternuements continuels. Je n'arrive pas à tenir le coup parce que mon corps ne fonctionne pas comme je le voudrais. Ou bien que cette oppression que je ressens devient un cauchemar et je crains parfois l'infarctus. Ou encore, cette douleur-là n'est-elle pas le signe, peut-être, d'un cancer, va savoir. Alors dans de telles circonstances, je ne vous rassure pas avec de bonnes paroles. Il choisit un passage de la première épître de Pierre. Si je tends vers le bien et me montre juste, eh bien rien, absolument rien, ne pourra m'ébranler. Et même s'il m'arrive de souffrir, je ne dois avoir aucune crainte. Je peux même être comblé, être heureux, si je garde saintement, dignement, le Christ en mon cœur. Au milieu de la maladie, j'ai en moi un espace sacré où habite le Christ. Et toutes les douleurs physiques m'invitent à me tourner vers cet espace que la maladie n'atteint pas, où je suis entier et intact. Et là, oui, là où le Christ habite en moi, la peur et la tristesse n'ont pas droit, n'ont aucun droit de cité et ne peuvent me dominer. Troisièmement, que le courroux, la colère, te gagne. Alors ton adversaire aura atteint son but. Tu es, à ce moment-là, sous son emprise. Par exemple, contre la tentation de la calomnie que suscite la colère, la Sainte Bible nous avertit et elle nous dit: tu ne déposeras pas contre ton prochain en témoin mensonger. Exode chapitre 20, verset 16. Quand on est en colère contre quelqu'un, tous les moyens sont bons pour lui faire du tort. On se voit le raboureur durement et de le labourer en quelque sorte avec toute notre colère pour le démolir, pour l'abaisser, pour lui nuire même en faisant un faux témoignage, pourquoi pas, ou en le calomniant, c'est-à-dire en répandant sur lui ou sur elle, j'ajoute, des bruits qui ne sont pas vrais du tout, qui ne sont absolument pas vrais. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui succombent à cette tentation-là. Il n'est que de voir tous les mensonges qui sont diffusés sur Internet, sur des gens que l'on envie ou qui nous ont peut-être blessés. Alors je vous invite ici à vous référer à l'un des 10 commandements qui nous dit: tu ne déposeras pas contre ton prochain en témoin mensonger. Il ne propose pas d'argument pour prouver que son comportement est mauvais, mais je l'incite simplement à s'en tenir à la directive divine, afin de réprimer sa tendance à nuire à son prochain, en le diffamant. Quatrièmement, tout le monde sait bien qu'il a obtenu ce job parce que un de ses amis connaît le patron. Eh bien, voyez-vous, contre une pensée qui est née d'une rumeur, souvent, qui provoque notre colère, contre quelqu'un, nous sommes en colère contre une personne. Alors la Bible nous dit: tu ne répandras pas un faux bruit. Exode, verset 1 du chapitre 23. Donc Exode 23, verset 1. Lorsque nous entendons quelqu'un jaser sur son voisin ou sur un collègue, nous sommes un peu trop facilement enclins à croire ce qu'il nous raconte et à juger l'autre avec colère. Comment peut-on se conduire ainsi? Je vous le demande. C'est un être malfaisant qui ne mérite que le mépris. Or, dans une telle situation, nous devons réfléchir à cette parole de la Sainte Bible qui nous commande de ne pas répandre de faux bruits. Elle peut nous aider à ouvrir progressivement nos yeux et à voir que la réalité ne correspond pas forcément à ce que nous a raconté le calomniateur. Et nous aurons alors le courage de regarder l'autre avec nos propres yeux et non avec les yeux de ceux qui le diffament. Cinquièmement, ma mère est seule responsable si elle m'avait vraiment aimé. Je pourrais être heureux aujourd'hui. Quelle belle excuse! Quelle belle excuse! Or, pour l'âme qui se laisse entraîner sur la voie du ressentiment et qui par les pensées incite son esprit à s'enflammer de colère, et même si par la suite la pensée de cette passion se fait hésitante et vient un temps où s'en va le souvenir de la parole ou du fait, quelque chose cependant reste qui obscurcit ainsi l'esprit et y laisse une empreinte. Or, il est dit que dans le sentier de la justice se trouve la vie et le chemin qu'elle suit ne mène pas à la mort. Proverbe chapitre 12 verset 28. Je répète parce que c'est important. Dans le sentier de la justice et la vie se trouve la vie et le chemin qu'elle suit ne mène pas à la mort. Proverbe 12, verset 28. Voyez-vous, le ressentiment fait dévier la raison de son juste chemin. S'il nous submerge et nous domine, ce sentiment-là, nous ne pouvons plus penser clairement. Nous déraisonnerons et tout en nous s'en va s'imprégner de rancœur. Je sais que où que j'aille, j'y vais avec tout ce que je porte en moi, y compris avec une rancune profondément ancrée. Oui, je sais également que même lorsque celle-ci s'apaise, je ne peux oublier les mots qui m'ont blessé. Dès que ces mots feront surface, ma colère remonte aussi et obscurcit ma pensée. Avec la parole tirée du livre des Proverbes, je vous montre que le chemin de la colère conduit à la mort et que cette conséquence que je vois, que je vous mets ainsi devant les yeux, devrait nous inviter à suivre le sentier de la justice, qui, lui, mène à la vie. Sixièmement, chers amis, il faut laisser crier les envieux et les médisants. Il faut les laisser crier. Voyez-vous, contre la tentation de la colère qui nous empêche de répondre avec douceur à ceux qui nous blâment à juste titre, parce que on a reçu une voiture d'occasion. Alors une réponse douce fait rentrer la fureur, mais une parole blessante, elle fait monter la colère. Donc la langue des sages exprime bien la science, mais la bouche des sots, une parole blessante, excite la colère. Proverbe chapitre 15, verset 1. Voyez-vous, en me faisant remarquer que je me suis mal comporté, un ami voudrait m'aider. Mais cela me rend furieux et ma colère rend toute sa vérité au dicton selon lequel seul aboie les chiens blessés. Parce que mon ami a mis le doigt sur un point faible que je ne veux pas reconnaître, car cela me contrarie et cela me met en colère contre moi-même, alors je me mets à aboyer. C'est une manière de me détourner de ma faiblesse. La parole sage du livre des Proverbes nous fait entrevoir les conséquences de la colère. Elle emporte même cet ami qui, plein de, on peut dire, de compassion, a attiré mon attention sur mon point faible. Et notre amitié risque ainsi de se briser. Mais si au contraire, je réponds avec humilité à sa remarque, eh bien, cela m'évitera de me mettre en colère et notre amitié sera préservée et encore plus profonde. Septièmement, je voudrais le voir mort. Qui n'a jamais eu une pensée aussi sinistre que celle-ci? Je voudrais plutôt le voir mort. Eh bien, voyez-vous, contre les pensées qui nous poussent à haïr et à maudire nos ennemis, la Bible nous donne le conseil suivant. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin de vous montrer fils de votre Père qui est dans les cieux, parce qu'il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Saint Matthieu chapitre 5, verset 44. Il nous arrive parfois de maudire celui contre lequel nous sommes en colère. Bien sûr, nous devrions éviter cela. Alors nous lui souhaitons tout le mal possible. Il faut qu'il souffre de notre désintéressement. Parfois même, nous allons jusqu'à souhaiter sa mort. Et nous tendons alors de refouler cette pensée qui nous effraie. Voyez-vous, quand nous sommes ainsi tourmentés, pensons plutôt au sermon de Jésus sur la montagne qui nous exhorte à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Or, en priant pour eux, nous allons les voir avec d'autres yeux et être même en mesure de les aimer. Voyez-vous, Jésus nous renvoie au soleil qui se lève aussi bien sur les bons comme sur les mauvais. Si nous continuons à haïr nos ennemis, le soleil se couchera aussi sur nous, et aucune pluie n'arrosera notre terre. Donc, soyons raisonnables. Huitièmement, toi, tu oublies toujours tout affront, et moi, je ne peux pas m'empêcher d'y revenir sans cesse. Voyez-vous, chers amis, contre la tentation de la colère que ne calme pas le regret exprimé par le frère, mais se retourne à nouveau et s'acharne contre lui. La sainte parole de Dieu me recommande ceci. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, remets-lui, pardonne-lui. Et si sept fois le jour il pèche contre toi, et que sept fois il retourne vers toi en disant « je me repens », eh bien tu lui remettras, oui, tu lui pardonneras. Saint Luc, chapitre 17, verset 3. Bien souvent, le regret de celui qui m'a blessé ne me suffit pas. Je suis si blessé et en colère contre lui qu'il a beau passer son temps à s'excuser, eh bien cela ne me satisfait pas. Je le laisse alors avec son repentir et lui montre mon courroux, c'est-à-dire ma colère, en me désintéressant de lui, car je veux le voir souffrir, c'est cela. Or, voyez-vous, cette façon d'agir est une forme de vengeance. Et dans une telle situation, je vous renvoie au commandement de Jésus qui dit, même si le frère a péché sept fois contre moi, je dois lui pardonner dès lors qu'il le regrette. En grec, cela s'exprime ainsi. Je révise ma pensée, je fais demi-tour, je me montre compréhensif. Mon prochain n'a pas à se rabaisser. S'il reconnaît qu'il a fauté, eh bien, c'est la moindre des choses. Je dois lui pardonner. Neuvièmement, quand on voit toujours le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein, eh bien, contre la morosité qui provient de l'ennui et qui réduit la louange au silence, ne laisse pas l'ennemi à avoir le dessus. La Sainte Bible dit, je veux bénir Dieu en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Celui qui n'a envie de rien passe son temps à maugréer, à ronchonner. Rien n'est assez bien pour lui. L'ennui naît de l'incapacité à s'ouvrir à l'instant présent. On n'a pas envie de travailler parce que c'est trop fatigant. On n'a pas envie de prier parce que c'est trop lassant. Même ne rien faire est parfois ennuyeux. Or, quand rien ne se passe, on est évidemment insatisfait et on se ferme à Dieu. On ne perçoit tout simplement plus ce que Dieu nous a offert. Tu dis, mais je ne peux pas être heureux de la vie que je mène. Elle est totalement sans aucune saveur. Mais contre une telle morosité, il, Dieu, nous encourage. Il nous encourage à le louer à tout moment et en toute chose. Pourquoi pas dire merci? Sinclair Lewis n'a-t-il pas dit un jour que le snob est celui qui râle de tout et sur tout? Croyez-moi, être capable de louange, c'est être pas en trop mauvaise santé, bien au contraire. Amen. Nous terminerons cette très courte étude ici. Et nous allons prier ensemble. Je vous dirai les strophes d'un très ancien cantique. Ensuite, nous allons prier ensemble. Et j'essayerai de vous mettre quelques chants, quelques cantiques d'un lointain passé. Et en ce temps-là, il n'existait absolument pas de CD. On enregistrait avec des magnétophones Revox ou Krudelsky, des appareils à bande, et évidemment avec le temps, l'audition n'est plus la même. Donc, ce seront des chants de 1958, il y a un bon moment de cela. Alors voici donc la strophe de cet ancien cantique. Soleil de justice, salut des pécheurs, d'un regard propice, réjouis nos cœurs, répands dans nos âmes la paix, la santé et les pures flammes de ta charité. Reçois nos cantiques, Jésus, roi des rois. Au cœur angélique, nous joignons nos voix. Nous voulons sans cesse célébrer ta mort, tes soins, ta tendresse et ton long support. Prions. Ô notre Dieu, tu nous as recueillis avec les serviteurs fidèles de tous les temps dans la Jérusalem céleste, dans tes tabernacles éternels, au pied de notre Sauveur, pour le célébrer à jamais. Que seront auprès des conceptions les plus belles et les plus grandes de notre intelligence et de notre cœur les réalités du ciel et auprès des aspirations et des soupirs de la terre, la joie qui attend dans ta gloire les rachetés de Jésus. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as révélé quelque chose de cette gloire et de cette joie pour nous soutenir et pour nous encourager au milieu de nos difficultés de tous les jours. Que la pensée du salut que notre Sauveur nous a acquis nous accompagne sans cesse et que notre cœur s'assure et se réjouisse en lui. Ce ne sont pas des images que tu nous présentes, ô notre Dieu. Toutes tes paroles sont véritables et certaines. Prépare-nous pour cette vie où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, où la mort ne sera plus, où toutes choses seront faites nouvelles, et où tu seras toi-même tout en tous. Que chaque jour soit pour nous un jour de progrès, progrès dans la vie, de la foi et de l'amour, et que ta grâce et ta paix habite dans notre cœur et dans notre maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, j'essaie de vous mettre ces chants de ce lointain passé 1958.
Sure.